Salut Gaëtan! Hey! Contente de te voir! Comment ça s'est passé ta décennie sabbatique dans une grotte en Australie?
Ah ben, comme on le dit, là, 10 ans sans sortir d'une grotte, ben ça passe trop vite ces affaires-là, hein? Ben je m'habitue un peu à la clarté en ce moment, là.
Pas trop de misère à revenir dans ton poste en loisir, mais semble que t'avais le dossier des jeunes.
Ouais, en plein ça. Ouais, non, ça se fait tranquillement, ça, là. Il y a juste 2-3 petites choses que je dois me remettre à jour, comme par exemple, il y a une nouvelle mesure pour peser les objets, là. T'sais, moi, je connaissais le kilogramme, mais je savais pas qu'il avait inventé l'Instagram, là.
OK, ils vous ont pas laissé de sortir 2 minutes de la grotte, là.
Non, pas une seule minute. On pourrait croire que le manque d'oxygène viendrait affecter mes capacités mentales, mais pas toutes. Ah, puis juste une dernière chose, là. Je veux m'impliquer des jeunes pour l'organisation d'une activité à thématique cool, là, t'sais. Puis j'ai demandé à Nancy, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre les jeunes de nos jours, puis... Ben, elle m'a dit de passer par TikTok. Nathalie, dis-moi la vérité. TikTok, là, c'est-tu un nouveau gang de rue, ça, là?
Salut tout le monde, bienvenue au balado de l'OQL. Mon nom est Fred Ross et je vous accompagnerai tout au long de cet épisode. Aujourd'hui, on accueille 3 merveilleuses personnes pour parler de l'implication des jeunes au Québec. Avant de débuter l'épisode d'aujourd'hui, nous souhaitons vous parler de 2 organismes qui pourraient vous outiller dans la gestion de votre dossier jeunesse. Pour débuter, on vous propose de visiter le site internet du Secrétariat à la jeunesse qui a pour mission de conseiller le gouvernement en matière de jeunesse et d'assister le premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités à cet égard. Le Secrétariat à la jeunesse assure aussi la coordination et le suivi de l'action gouvernementale dans ce domaine. En deuxième lieu, allez donc jeter un petit coup d'œil au site internet de l'organisme Citoyenneté Jeunesse qui a pour mission de concerter ses membres en vue d'amplifier la voix et les opinions des jeunes de 35 ans et moins et d'aspirer à leur pleine représentation dans les milieux décisionnels et de pouvoir. En tout temps, l'organisation agit de manière transpartisane et participe activement aux efforts d'éducation et de participation citoyenne suivant la philosophie du « pour et par les jeunes ». Bon, là maintenant, c'est sûr que vous comprendrez que ça aurait été beaucoup trop long de lister la totalité des organismes jeunesse qui travaillent corps et âme pour le bénéfice de nos jeunes, mais si un tel organisme vous vient en tête et que tu souhaites lui donner un brin de visibilité ou simplement de le faire connaître aux autres professionnels en loisirs, ben je t'invite à l'inscrire dans les commentaires de cet épisode. Parlant d'organismes remplis de merveilleuses personnes, voici nos 3 invités d'aujourd'hui qui nous parleront de l'implication jeunesse au Québec. Et on commence avec... Elsa Mondésir-Villefort, directrice générale de l'organisme Citoyenneté Jeunesse. Josiane Cossette, agente Commission Jeunesse, Planification et Développement des Communautés au service des loisirs, sports et développement des communautés de la ville de Gatineau. Et on finit avec Julie Fortier, professeure au département d'études en loisirs, culture et tourisme et co-directrice du laboratoire en loisirs et vie communautaire. Mais là, avant de leur poser des questions sur les jeunes, on est-tu en mesure de dire c'est qui ça, les jeunes?
Hi, parce que moi je suis jeune depuis 1913, l'année où j'ai marié ma belle Marlène.
Et si on allait voir sa définition? Le terme jeune, selon le Larousse. Pardon? Il y en a 10? Oh, OK. Bon, ben on a officiellement un top 10 de définition du terme jeune. Musique! En 10e position, qui est à peine suffisant en quantité. En 9e, qui existe depuis peu de temps. En 8e position, qui n'a pas achevé sa croissance. En 7e position, qui convient surtout à la jeunesse ou qui en donne l'aspect. En 6e position, qui est composée de personnes peu âgées. En 5e position, qui est débutant dans une carrière ou un métier. En 4e position, qui est moins âgé que la moyenne des membres de la même profession ou du même état. En 3e position, qui présente certains caractères de la jeunesse, soit la vigueur, la fraîcheur et la spontanéité, ou qui les manifeste. Le numéro 2 s'emploie pour comparer les âges respectifs de 2 personnes ou pour distinguer 2 homonymes d'âge ou de générations différentes. Et en première position du top 10 Larousse pour le terme « jeune » qui est peu avancé en âge. Bon, là, vous comprendrez qu'il n'y a pas une définition qui vaut plus que les autres. Mon top 10 est uniquement lié à leur ordre d'apparition dans le Larousse. Mais la vibe a aidé un peu, non? Plusieurs des définitions qu'on vient de mentionner du terme « jeune » par le Larousse attribuent la jeunesse à l'âge ou à la période de temps. Mais pour vous, est-ce que la jeunesse, c'est une question d'âge? Et si oui, selon vous, on est jeune de quel âge à quel âge? Parce que selon le rapport sur l'état de la jeunesse du Canada, pour les jeunes, avec les jeunes et par les jeunes du gouvernement du Canada, bien, on semble cibler les 13-36 ans. Par contre, le Conseil jeunesse du Premier ministre du Canada, lui, est composé de jeunes entre 16 et 24 ans. Selon le gouvernement du Québec, plus précisément selon le secrétariat à la jeunesse, on cible les jeunes de 15 à 30 ans. Les maisons des jeunes, tant qu'à elles, ciblent les jeunes de 12 à 17 ans. Et là, des exemples comme ça, il en existe des tonnes et des tonnes. Donc, est-ce que la jeunesse serait difficilement attribuable à un âge? Est-ce que ce serait pas plus un état?
Ben, si la jeunesse est un état, ben, j'espère que c'est pas le Texas, parce que si oui, je suis tombé loin de ma jeunesse. Ça t'a pointu, état, Texas, oh, tu m'arrêtes.
Hop là, ok, je l'avais pas enlevé celle-là. Whoops. Bon, ben, je vous laisse avec Elsa, qui nous répond à la question, mais qu'est-ce qu'un jeune?
Wow. Effectivement, c'est une très belle question. Donc, c'est pour ça que nous, on encourage toujours nos partenaires à Citoyenneté Jeunesse à aller vers leurs jeunes, parce que les réalités sont tellement plurielles pour moi. La réalité d'un jeune qui a grandi à Montréal versus un jeune qui a grandi en Abitibi, Côte-Nord, la question des communautés autochtones, la diversité culturelle, il y a tellement de réalités qui font en sorte que c'est pas quelque chose qu'on peut saisir. C'est quoi les jeunes? C'est qui les jeunes? Il faut vraiment aller vers les jeunes qui sont autour de nous pour apprendre à les connaître, puis c'est eux qui vont se définir. Pour Citoyenneté Jeunesse, c'est du 35 ans et moins. Là, on sait que 35 ans, on commence à aller loin, mais il faut aussi se rappeler que certains jeunes n'ont pas le privilège de commencer à s'engager à 22 ans, 23 ans. On pense aussi, par exemple, aux gens qui sont en situation d'immigration. Ils arrivent à 25 ans, ils doivent quand même penser à peut-être se stabiliser avant de commencer à s'engager. Donc, de voir le spectre de la jeunesse de manière plus large, ça nous permet de desservir justement ces différentes réalités-là, puis de prendre en considération les privilèges que certains ont et que d'autres n'ont pas.
Donc, si on comprend bien les propos d'Elsa, on pourrait dire que la jeunesse est subjective. En ce sens, si un jour tu as entre les mains le dossier jeunesse, il devient très pertinent de définir avec ton organisation, mais qui sont ces jeunes pour vous? Ça pourrait sans doute t'éviter 2-3 maux de tête rendus à ton plan d'action. Ceci dit, entrons maintenant dans le vif du sujet, l'implication des jeunes au Québec! Le recrutement, l'encadrement, la mobilisation, la fidélisation, l'évaluation, bref, avoir un jeune comme bénévole pour l'organisation de projets semble être de plus en plus tough. Est-ce que c'est une perception? C'est quoi la place qu'occupent les jeunes dans le bénévolat au Québec? Voici la réponse de Julie Fortier.
Pour ce qui est des jeunes, en fait, ce qu'on sait présentement, là, des petites enquêtes ici et là, c'est qu'ils sont engagés. Les jeunes sont quand même engagés. Il ne faut pas penser qu'ils ne s'engagent pas. Puis, ils ont aussi le réflexe d'engagement. T'sais, on pense juste, si je me réfère à la COVID, ben, on sait très bien que les aînés, ben, ils ne pouvaient plus faire du bénévolat à cause de la distanciation sociale, physique. Donc, mais les jeunes ont pris beaucoup d'initiatives pour aider les organismes, pour aller faire, par exemple, l'épicerie, pour aller faire bon, différentes commissions. Donc, le sens d'initiative est présent chez les jeunes. Est-ce que le bénévolat encadré est la place où ils sont plus présents? Je dirais que ce serait un mix des deux. T'sais, autant le bénévolat encadré que le bénévolat d'initiative ou informel, donc, qu'on peut appeler. Donc, je pense que les jeunes s'engagent peut-être différemment aussi. Puis comme chez les personnes plus âgées, c'est-à-dire plus âgées que 25 ou 30 ans, ben il y en a qui s'impliquent beaucoup, il y en a qui veulent rien savoir, puis il y en a qui, tu sais, sont entre les deux. Si on les invite, ils vont s'impliquer. Si on les invite pas, ils vont rester spectateurs, ils vont rester leur regarder la scène. Donc, mais moi, j'ai quand même bon espoir, honnêtement, sur l'engagement des jeunes. Mais les enquêtes avant la pandémie nous indiquaient que les jeunes en faisaient quand même beaucoup de bénévolat, tu sais, peut-être pas en termes d'heures, peut-être plus en termes de projets, peut-être en termes aussi de petits moments ici et là, tu sais, quelques heures par semaine ou un projet du début à la fin, donc de façon différente. Ils donnaient peu d'heures, mais plusieurs en faisaient un petit peu. Donc, ce qui fait que les jeunes en font quand même. C'est sûr qu'il faut voir si on rentre aussi le bénévolat obligatoire, par exemple, dans les programmes PEI de ce type-là, ben là, ça peut venir biaiser. Mais tout de même, c'était parmi les groupes qui, les catégories là, d'âge qui faisaient le plus de bénévolat en termes de taux de bénévolat, donc en termes de nombre de personnes.
Attention, la prochaine question peut vous faire vivre des émotions fortes dans votre dedans. Veuillez attacher vos écouteurs avec des tarapes. Bonne écoute. Si le fait de s'impliquer dans un projet, dans une activité ou même dans un événement peut être influencé par sa propre disponibilité, son ouverture, ses capacités, son éducation, notamment dans la transmission des valeurs liées à l'engagement bénévole, ben, est-ce qu'on peut considérer que l'implication bénévole s'adresse à tous les jeunes? Est-ce qu'on pourrait y voir là une certaine forme d'élitisme? Voici la réponse de Julie.
C'est une excellente question. Si on se ramène à ceux qui sont plus âgés que les jeunes, qu'on considère jeunes, je dirais que c'est souvent le profil est souvent plus éduqué, effectivement, autant au niveau de au niveau scolaire, évidemment, la scolarité, mais au niveau de revenus. Aussi. Donc, est-ce que les jeunes, c'est la même chose? J'ai l'impression que oui. Je pense que c'est une valeur qu'on acquiert aussi en côtoyant un paquet de monde qu'on peut acquérir à l'école aussi. C'est ça. Il y a des milieux qui stimulent ça, en fait, qui sensibilisent, qui stimulent. Si un jeune passe par les institutions scolaires, qu'il ait des revenus, sa famille soit bien nantie ou non, il peut s'impliquer, il va s'impliquer certainement. Je crois que là, ça fait pas ou peu de différence, mais c'est si il n'y a pas cette occasion-là, de ces opportunités-là de s'impliquer, il faut être informé de ce qu'on peut faire, puis il faut voir ce qu'il y a des besoins primaires qui priment. Je sais très bien que dans l'esprit de communauté peut être très fort, peu importe, soit dans un milieu, puis je dirais même plus dans le milieu moins nanti que dans le milieu bien nanti. Donc, à travers des organismes ou entre familles, tout ça, ça peut être stimulé puis être présent. Mais je pense qu'à part l'école, l'institution scolaire peut apporter des opportunités d'implication que si on y va pas ou si on est préoccupé par autre chose ou un emploi très jeune, ça ne nous permet pas de développer cet aspect-là puis d'acquérir la valeur d'engagement, je dirais.
Ah, la valeur de l'engagement. Le saint graal des organismes à but non lucratif. L'utopie qu'on ne doit pas regarder trop longtemps par risque d'être aveuglé. Ah, l'engagement.
Olivier Vachon, prenez-vous pour Implication bénévole le conseil d'administration du club d'ornithologie ici présent.
Moi, j'étais juste venu pour la bouffe gratuite, moi, là.
C'est réglé! Je vous déclare lié pour le restant de vos vies!
Julie a mentionné dans sa première réponse que les jeunes s'engageaient autant que les autres groupes, mais possiblement différemment. Tout au long de mes entrevues, le concept de création de projets pour, par et avec les jeunes est revenu à plusieurs reprises. Est-ce que c'est une solution envisageable? Si oui, Elsa, est-ce que tu as des petits conseils?
Oui, moi je pense que c'est toujours possible. C'est une solution vraiment pertinente de faire des projets par et pour les jeunes. Donc, chez Citoyenneté Jeunesse, c'est une preuve. On est une belle gang de jeunes à travers le Québec qui travaillent au service des autres jeunes. Je pense que la chose la plus importante qu'il faut retenir pour les personnes qui ont envie de s'engager dans ce genre d'initiative-là, bien, c'est que les jeunes qui s'impliquent, qui s'engagent dans des projets qui sont par et pour eux, aient pleinement le pouvoir décisionnel, le pouvoir d'agir, le pouvoir d'action, puis qu'on ne soit pas dans le symbole. Donc, pour qu'il y ait des projets qui vont avoir une pérennité dans le temps, qui vont vraiment avoir un impact dans les communautés, il faut donner un réel pouvoir aux jeunes dans la décision, qui peut être partagée aussi avec des gens moins jeunes, comme je dirais. Mais c'est cette question-là de pouvoir d'agir qui fait toute la différence dans la pertinence de ces projets-là, dans le par et pour.
Bonjour, bienvenue à ce 17e conventum des personnes à faculté extraordinaire. L'année dernière, nous avons admis le petit Kevin ici,
salut,
qui peut soulever une voiture avec un seul doigt. Vous vous rappelez aussi de Sophie.
Allô?
Nouvellement admis grâce à sa capacité à se transformer en faucon pèlerin. Oui, oui, Annie, c'est bon, on te croit. Nous accueillons aujourd'hui la petite Noémie. Quel est ton pouvoir spécial, dis-nous?
Oh, moi j'ai le pouvoir d'agir.
Quoi? Qu'on lui remette une couronne!
Donc, je mentionnais au début de l'épisode que le contexte actuel pour l'implication des jeunes semblait quelque peu ardu ou même...
Hardcore!
Bref, j'ai demandé à Josiane quelle était la stratégie de la ville de Gatineau face à ce contexte, et voici sa réponse. Attention! Pour apprécier davantage les propos de Josiane, simplement vous informer que la stratégie jeunesse municipale de la ville de Gatineau s'adresse aux 12-17 ans. Voilà, c'est dit. De retour à notre programme principal.
En fait, notre stratégie, je te dirais qu'elle est la même avant pandémie que post-pandémie. Puis la même stratégie est de permettre aux jeunes qui participent à la commission jeunesse vraiment de vivre une expérience qui soit vraiment authentique, de vivre une expérience aussi où il y a rapidement un gain sur leur investissement. Ça, c'est très, 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 très important. Les jeunes ont besoin de concret, ont besoin de comprendre ce qu'ils font là, ont besoin également quand on demande quelque chose à quelqu'un, c'est la première des choses, on va les remercier, mais je pense qu'il faut en donner un petit peu plus. Des fois, ça peut être simplement de les inviter à jaser autour d'une pizza. Le fait qu'on leur offre la pizza, il y a déjà une espèce de plus-value à donner finalement, là, je te dirais, de leur temps. Là. Fait que pour nous, ça, c'est bien important. C'est important aussi de les faire rayonner. Puis les faire rayonner, bien... Comme ce qu'on fait aujourd'hui, là, c'est pas moi qui fais ça habituellement. C'est vraiment les jeunes qui sont mis en vedette, qui sont mis en interrelation aussi avec les leaders. Quand on parle d'environnement, quand on parle, je sais pas si on travaille avec les écoles, c'est vraiment eux qui sont l'intermédiaire. Moi, je suis là pour les appuyer, pour les outiller à présenter ce qu'ils ont à présenter ou à réagir à ça. Mais vraiment, c'est notre rôle là, vraiment de les mettre en avant-plan. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on faisait avant, qu'on fait encore maintenant. On l'a toujours fait avec beaucoup, beaucoup d'ardeur, puis on continue aussi à le faire, mais ça reste un défi d'approcher les jeunes. Puis je dirais, ça reste un défi aussi de faire participer au-delà de ça les adultes. Faut être capable de leur donner un retour très rapidement. Faut être capable aussi, quand on les consulte, sur un projet en particulier, ben de revenir puis de leur dire voici où on en est rendu. Puis pour te donner un exemple, on a été consulté à la commission jeunesse par le réseau de la santé publique. Ils sont venus solliciter un appui sur un projet, projet pour lequel les jeunes avaient vraiment beaucoup de questions puis finalement ils n'étaient pas trop d'accord avec l'orientation du projet. Le réseau de la santé est parti. Ils sont revenus nous voir pour dire aux jeunes, vous savez, vous avez raison, puis on a changé notre fusil d'épaule, puis voici, on comprend, puis c'est comme ça qu'on va gérer ce projet. Est-ce que ça vous tente de cette façon-là de le travailler avec nous? Puis les jeunes ont dit oui. Et ça, ça donne une crédibilité, dans le fond, à l'intervention des jeunes. Puis pour nous, c'est quelque chose qui, quand on est sollicité, autant au niveau des services municipaux que par des intervenants externes, on leur demande ça. C'est de nous donner des nouvelles sur le projet, sur ce qu'il y en est, sur ce qu'ils ont fait justement avec la contribution des jeunes.
Petite réflexion ici. Vous est-il déjà arrivé de consulter votre public cible pour ensuite donner vie à un plan d'action tellement parfait qu'il pourrait faire pleurer un moine tibétain, mais que vous n'êtes jamais retourné voir les personnes que vous avez consultées?
Oui? Honte au village! Honte! Au village! Honte!
Petite confidence. Je fais partie de ce groupe de personnes qui ont déjà oublié de revenir voir les personnes consultées. Hi!
Honte au village!
Bon, oublier, c'est un grand mot. On pourrait plus dire que le TGV du loisir nous mène parfois à des endroits très intéressants, mais pour lesquels nous n'avons pas toujours le temps ni l'argent pour aller un petit peu plus loin. C'est un énorme défi. Quoi? Défi? Parlant de défi professionnel en loisir. Oui, c'est un beau lien. J'ai demandé à Josiane quels étaient ses défis majeurs en lien avec son dossier jeunesse. Voici sa réponse.
Moi, je suis assise dans cette chaise-là depuis 2006. Donc, j'ai quand même une belle expertise, je te dirais, par rapport à la jeunesse, par rapport au roulement, si on veut, de la commission jeunesse. Et le défi que je vis depuis toutes ces années-là, en fait, est un double défi. C'est le même. C'est de mobiliser les jeunes et c'est de mobiliser les moins jeunes. Mobiliser les jeunes, c'est difficile. La jeunesse est éphémère, hein? Ça ne dure pas longtemps, le secondaire, c'est vite, vite passé. Donc, c'est un éternel recommencement. les moyens pour aller les chercher, pour communiquer avec les jeunes, c'est pas évident. Surtout qu'on penserait le contraire, là, mais les réseaux sociaux rendent ça encore plus difficile parce que ils ont le choix de choisir la source d'information. Pour certains, ils vont aller voir des trucs sur TikTok, pour d'autres, c'est Facebook, pour d'autres, c'est pas là du tout, c'est les médias encore, les médias traditionnels. Mais ça rend l'approche avec les jeunes, en fait, le contact très difficile. Avec les moins jeunes, c'est que c'est une chose. En fait, avec les jeunes, c'est une chose de leur dire « prenez votre place », mais avec les moins jeunes, c'est une chose de leur dire « faites de la place ». Faites de la place aux jeunes. Faut que la ville, faut que les services municipaux, faut que les partenaires externes, les organismes communautaires aient l'ouverture de s'asseoir avec ces jeunes-là, d'égal à égal, vraiment, puis de prendre la contribution des jeunes pour ce qu'elle est vraiment, parce qu'elle a une valeur, puis de cheminer avec ça. Fait que ça, c'est vraiment le double, l'espèce de paradoxe là, que je vis depuis toutes ces années-là. Tu sais, le slogan de la Commission jeunesse, là, c'est eux qui l'ont trouvé, là, c'est là, maintenant, tout de suite. Ils veulent être des citoyens, là, maintenant, tout de suite. Ils ne veulent pas attendre d'avoir 18 ans pour qu'on les considère.
Le slogan de la Commission jeunesse de la ville de Gatineau, là, maintenant, tout de suite, m'amène lentement, mais sûrement, vers ma prochaine question. Est-ce qu'il est toujours possible de faire des projets à long terme avec les jeunes? Là-bas, demain, plus tard. Voici la réponse d'Elsa.
Je pense que c'est encore possible de faire des projets à long terme avec des jeunes, mais c'est vraiment difficile. Donc, on le voit, là, on va dire le fameux mot en paix, la pandémie, je vais le nommer, qui a eu vraiment des grandes conséquences sur toutes les questions d'engagement jeunesse. Là, on le ressent aussi. Là, on est dans une période où est-ce qu'on souhaite trouver des solutions, qu'on souhaite innover. C'est possible d'avoir des projets à long terme, mais je pense que c'est en consultant, en allant vers les jeunes, en mobilisant les jeunes de vos communautés pour les personnes qui peuvent écouter, que vous allez être en mesure de savoir exactement c'est quoi les besoins des jeunes, que vous allez pouvoir créer des espaces qui leur conviennent et qui vont leur donner envie de pouvoir rester sur le long terme. Donc, c'est pas toujours facile, mais dans la consultation, dans le par et pour, il y a moyen que ces jeunes-là vous amènent les vraies solutions puis qu'ils vous disent « ça, si on fait ça de cette manière-là, bien, je vais avoir envie de rester puis de m'engager sur le long terme ». C'est pas facile, mais ils sont là encore, ces jeunes-là, qui ont envie de faire ça.
Avant de vous quitter, Josiane m'a généreusement offert cette réflexion que je souhaite vous partager à l'instant. J'aimerais avoir votre avis justement sur cette opinion. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? N'hésitez pas à partager votre vision dans les commentaires de cet épisode.
Moi, je pense que les villes, parce que je crois beaucoup aux villes qui a vraiment une proximité, là, les villes doivent capitaliser sur la jeunesse, vraiment. Il faut arrêter de penser que quand on fait des projets jeunesse, ce sont des projets qui sont cute. C'est des projets qui sont smart, qui sont intelligents. C'est intelligent d'amener tout de suite les jeunes à être sensibilisés aux enjeux municipaux, aux défis et à leurs responsabilités comme citoyens face à leur milieu de vie. Fait que pour moi, là, une ville qui se donne cet outil-là et qui se permet là, de le vivre à pleine capacité dans ce qu'elle développe, bien, est une ville vraiment qui je suis certaine, là, a un potentiel de développement puis d'harmonie dans sa ville qui est supérieure à une autre ville finalement. Là.
C'est ce qui met fin à cet épisode du balado de l'OQL. Pour ajouter votre saveur à ce merveilleux projet, nous vous invitons à nous laisser un commentaire en nous indiquant ce que vous avez aimé, mais aussi ce que vous avez moins aimé de cet épisode. On souhaite aussi remercier nos 3 invités spéciaux pour leur magnifique participation à cet épisode. Nous vous remercions de votre écoute et on se dit à la prochaine! Ce balado est une présentation de l'Observatoire québécois du loisir. À la réalisation, la voix, le montage et toute autre tâche connexe, Frédéric Ross. Invités spéciaux, Elsa Mondésir-Villefort, Josiane Cossette et Julie Fortier.